Merci Olivia. Bonjour à tous, bonjour à chacun, à chacune. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce dimanche matin. Et j'aimerais aussi remercier l'équipe pastorale, Florian et Mathieu, qui sont cantecatais. Merci pour la confiance accordée ce matin. C'est vrai que moi, je me réjouis beaucoup des dimanches. En règle générale, c'est toujours un jour de joie. Et aussi spécialement quand on a les temps de témoignage, comme ce matin, de voir ce que Dieu fait dans notre Église. C'est quelque chose qui m'encourage beaucoup. Et ce matin, j'ai envie, vraiment, j'ai reçu sur mon cœur qu'on reste encore un petit peu sur le sermon sur la montagne. Vous savez qu'on l'a vu, Matthieu nous a déjà un peu emmenés dans ce passage dans l'évangile de Matthieu, du sermon sur la montagne. Et ce matin, j'ai à cœur qu'on continue un peu dans cette lancée-là et on regarde spécialement le Notre Père ce matin. Et si je vous encourage à aller voir, si vous ne l'avez pas déjà fait, ou écouter spécifiquement les prédications de Matthieu des dimanches passés, elles étaient encourageantes pour moi et puis je pense qu'elles le seront aussi pour vous. J'aimerais vous poser une petite question pour commencer. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre quotidien que vous faites répétitivement? Quelque chose, une activité, peut-être un geste, peut-être une réaction que vous faites plus d'une fois dans la journée. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous mangez en tout cas 3 fois par jour. Si vous êtes étudiant comme moi, c'est peut-être 2, peut-être 1 fois. Peut-être que vous avez l'habitude de prier le matin régulièrement, prier le soir également. Peut-être que vous êtes plutôt à checker votre appli Coca 2 à 3 fois par jour. Quelqu'un? Peut-être c'est Instagram, peut-être c'est vos emails qui vous font avoir une habitude, une sorte de répétition. Peut-être c'est aussi votre lecture de la Bible qui est répétitive. Et je pense que, en tant que chrétien du XXIe siècle, on a l'habitude un peu de faire toutes ces choses. Je pense qu'elles correspondent plus ou moins à notre quotidien. Et si on croyait les chrétiens du premier siècle, spécialement un texte qui est dans les marges du Nouveau Testament, c'est pas dans notre Nouveau Testament, mais c'est un texte écrit au premier siècle par les apôtres, la Didaké. En fait, les chrétiens étaient encouragés à prier le Notre Père 3 fois par jour. De la manière que le Seigneur a ordonné dans son évangile, priez ainsi. Et là, c'est le Notre Père en entier dans le texte. Et finalement, priez ainsi 3 fois par jour. C'est un enseignement qui nous a été donné déjà il y a 2000 ans. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la Didaké, mais cherchez sur Google, c'est très intéressant. C'est un texte qui a été enseigné comme une sorte de catéchisme pour les premiers chrétiens au premier siècle. Et puis cette prière, peut-être qu'on l'a fait en communauté, le Notre Père, peut-être que ça vous dit quelque chose, peut-être que vous le faites vous-même tout seul, peut-être en famille, peut-être dans votre chambre. Et mon grand-papa, il est décédé il y a 3 semaines. Et en fait, juste avant son décès, à peine 30 minutes en fait, avant qu'il parte dans la gloire vers notre Seigneur, en fait, il était dans sa chambre, assis sur son lit. Et une infirmière lui a demandé, est-ce que vous voulez prier le Notre Père ensemble? Et donc, ils ont prié le Notre Père ensemble. Et simplement, il a dit, je vais me coucher maintenant, merci beaucoup. Il s'est allongé alors qu'il a fait cette dernière prière. Et quelques minutes plus tard, l'infirmière est revenue voir s'il était couché, s'il dormait. Et il est parti comme ça, dans la gloire. Et je pense qu'aujourd'hui, cette prière du Notre Père, cet encouragement de nos ancêtres, de nos anciens, peut-être ceux d'il y a 2000 ans ou ceux contemporains avec nous, il y a une grande sagesse dans cette prière. Et ce matin, je pense que la répétition du 3 fois, on va voir qu'il y a 3 vérités dans Notre Père pour nous aujourd'hui. Vous êtes d'accord? On va regarder ça ensemble. Et pour commencer, je vous encouragerai, je vous demanderai de vous lever et on va prier le Notre Père ensemble. Il sera projeté, donc on le récite juste ensemble. Donc je vous encourage à vous lever. Et si vous arrivez à prier avec les yeux ouverts, je vous encourage, comme ça vous pouvez prendre le texte et méditer le texte en même temps qu'on fait cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Il y a 15 jours environ, Maud et moi avons reçu les clés de notre nouvel appartement. On reste à Fribourg, on reste en Basse-Ville. Et c'est en fait déjà le 5e déménagement en 7 ans de mariage. On a l'impression qu'on fait ça tous les ans, c'est une sorte d'habitude qu'on a créée. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup les déménagements. C'est quelque chose qui me motive. C'est vrai qu'on peut trier, faire du tri, on peut faire des boîtes, on peut déménager, on peut déplacer les meubles. Et peut-être que vous savez, dans le passé, j'ai fait un apprentissage de menuisier. Et dans l'apprentissage de menuiserie, on nous apprend à porter futé. Certains d'entre nous sont même enseignants aux menuisiers, des apprentis menuisiers. Donc je me souviens très bien que certains d'entre vous étaient là dans les locaux et puis vous nous avez enseigné à porter futé. Donc durant notre déménagement, il y a ça maintenant 10 jours, Maud et moi, on s'est toujours rappelé porte futé, on ne veut pas se coincer le dos, porte futé, on ne veut pas se bloquer le dos. Donc on a fait ça, on a déménagé, on était bien. Et en tant que menuisier, je savais porter futé, c'est important. Une chose très basique, si vous ne savez pas, c'est garder son dos droit, plier les jambes et se soulever comme ça. Très simple. Et on se rappelait ça, on se rappelait ça. Et moi, en étant menuisier, je me suis dit, je sais que je ne vais pas me bloquer le dos en étant menuisier. Mais depuis quelques années, je ne suis plus menuisier, en fait. Peut-être que vous savez, depuis quelques temps, j'ai appris à faire des cafés, à faire des cocktails. Donc, dans notre maison, notre nouveau chez nous, ce n'est pas en portant un meuble que je me suis bloqué le dos. En fait, c'est en faisant un café. Je me suis fait un lumbago. Peut-être que vous savez, peut-être que vous avez déjà vécu ça. En fait, c'est un blocage tellement intense et tellement fort qu'on a l'impression d'être paralysé toute une partie du corps. Et ce blocage, en fait, si vous avez déjà vécu, la seule chose que tu peux faire, c'est te coucher par terre. Regardez le plafond et regardez dans le vide. C'est tout ce que tu peux faire. Et puis j'ai l'impression que ce matin, peut-être que certains d'entre nous, notre vie de prière est un peu comme un blocage, comme un lumbago. J'ai l'impression que peut-être pour certains d'entre nous, peut-être qu'on a comme un blocage, comme une douleur, comme une paralysie dans notre intimité avec Dieu. Peut-être qu'en ce moment, tout ce que tu fais quand tu passes un temps avec Dieu, c'est être couché par terre, regarder le plafond, regarder dans le vide. Moi, j'appelle ça un lumbago spirituel. Et puis, il peut peut-être arriver de différentes manières. Peut-être que c'est un épuisement spirituel, peut-être que c'est un épuisement social, peut-être que c'est avoir donné tellement d'efforts pendant des années qu'en ce moment, tu es juste épuisé, tu n'en peux plus. Peut-être que c'est à cause d'une déception ou peut-être que tu ne t'es même pas rendu compte, tout à coup, tu as été bloqué en faisant ton quotidien et tout à coup, tac, une sorte de blocage, un lumbago spirituel. Et ce matin, si tu ressens ça au fond de toi, tu peux te rassurer parce que tu es venu à la bonne place. Parce que ce matin, on va parler d'une prière. Et je pense que Dieu, quand il sait qu'il y a un blocage, il nous donne aussi les solutions pour le débloquer. Et non seulement une solution, mais carrément une prière que Jésus nous a enseignée. Parce que les disciples demandent dans Luc, chapitre 11, verset 2, « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Et ensuite, Jésus enseigne le Notre Père. Une prière qu'on vient de prier ensemble. Et cette prière, en fait, elle est construite sur trois répétitions de trois différentes intercessions. Donc, on peut le regarder ensemble. La première partie, c'est trois intercessions sur la royauté de Dieu. On parle du nom qui soit sanctifié, son règne vienne, sa volonté soit faite. Ensuite, on parle de trois intercessions pour nous. Le pain de ce jour, le pardon, la délivrance. Et puis finalement, trois adorations à Dieu. Ce qu'on appelle aussi une doxologie. Que ton règne, à toi le règne, la puissance et la gloire. Et on ne va pas trop s'attarder en détail, on n'a pas le temps ce matin, mais j'aimerais juste vous montrer un petit parallélisme que vous pouvez avoir en tête. 3 x 3 x 3. Les deux premières parties, en fait, elles ressemblent beaucoup aux 10 commandements. C'est 5 commandements sur Dieu et 5 commandements les uns vers les autres. Et puis toute une liste de comment on peut acclamer et adorer Dieu. Voilà un petit parallélisme, mais on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Le Notre Père, en fait, nous donne la première vérité. Et puis la première vérité, c'est l'identité de Dieu. Le théologien John Stott, un Anglais, il nous rappelle, c'est toujours sage, avant de prier, de passer du temps pour se rappeler qui est celui à qui nous nous adressons. Il est toujours sage, avant de prier, de passer du temps pour se rappeler qui est celui à qui nous nous adressons. Et puis souvent, c'est facile de prendre cette prière du Notre Père et de la réciter, mais je pense que juste les deux premiers mots sont déjà clés. Notre Père. Notre Père, en fait, révèle carrément l'identité de celui à qui nous nous adressons. Puis je ne sais pas si toi, tu es déjà une fois dans la rue, puis tout à coup, quelqu'un te demande, toi, tu pries quel Dieu, toi, en fait? Puis tu lui réponds, à moi, je prie Notre Père céleste. Je pense que le gars va te regarder un peu bizarrement. Parce que, en fait, pour Jésus, appeler Notre Père, déjà, c'était scandaleux. Ça ne se faisait pas, en fait. Dans l'audience que Jésus adressait, les gens n'avaient pas l'habitude de dire « Dieu, notre Père ». C'était carrément vu comme un blasphème, ça ne se faisait pas. Aujourd'hui, souvent, la question, c'est « Est-ce que Dieu existe ?» À l'époque, c'était « Est-ce que Dieu est accessible ?» Et Jésus, en juste deux mots, « Notre Père », révolutionne carrément la compréhension. C'est scandaleux ce qu'il dit. Et puis, j'ai envie un peu de nous ranimer un peu ce scandale, cette fougue, ce Dieu à qui nous nous adressons. Et pour ça, regardons juste un petit peu avant cette prière du Notre Père dans Matthieu 6, les instructions de Jésus par rapport à comment prier. Il dit d'abord, ne priez pas comme les hypocrites. Et puis ensuite, ne priez pas comme les païens. Quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses comme les païens. Ils pensent qu'ils seront exaucés en multipliant les paroles. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Aujourd'hui, le mot païen, il a plein de connotations négatives. Aujourd'hui, on dirait peut-être les peuples ou les nations. Mais aux dernières nouvelles, les païens, c'était ceux qui ne priaient pas Dieu, pas le même Dieu que nous. Donc ici, Jésus, bien sûr, il fait une instruction de « répétez pas juste les mêmes choses » parce que, voilà, souvent on entend ça, hein, « ne priez pas, priez pas toujours la même chose parce que Dieu, il sait déjà ce que vous avez besoin, donc change un peu de disque. » Mais « ne priez pas comme les païens » est égal à « ne priez pas les autres dieux que le seul Dieu. » Comme on l'a entendu ce matin, le seul Dieu qui se nomme éternel, qui se nomme celui qui est. Et pour ça, je vous propose qu'on regarde, dézoome un peu, puis on prenne notre Bible, si vous l'avez avec vous. Ou sinon, c'est pas grave, c'est affiché. Et on va l'ouvrir sur 1 Roi, chapitre 18. Ici, dans ce passage, dans 1 Roi, chapitre 18, c'est le prophète Élie qui est sur le mont Carmel. Et en fait, il défie les prophètes de Baal, donc des prophètes païens. Élie arrive devant le peuple et il dit « Quand cesserez-vous de sautiller tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre ?» Ou bien, c'est Yahweh, donc son nom, l'Éternel, qui est Dieu, alors rendez un culte à l'Éternel. Ou bien, c'est Baal qui est le vrai Dieu, alors rendez un culte à Baal. Ici, Élie est devant un peuple, Élie est devant un peuple qui a comme différents dieux. Et puis Élie les défie. Alors, prouvons, regardons, faisons une compétition de voir qui est le vrai Dieu, en fait. Donc tout d'abord, c'est les prophètes de Baal qui se présentent. Ils prennent un taureau. Ils prirent un taureau qu'on leur présenta. Ils le présentèrent, puis ils prièrent Baal depuis le matin jusqu'à midi. « Baal, réponds-nous », disait-il. Et ils dansaient en soutenant autour de l'autel qu'ils avaient construit, mais ils ne reçurent pas un mot de réponse. Puis juste après, le texte nous dit « Élie se moqua d'eux ». Ils se moquent de ces païens qui répètent toujours la même chose. Donc qu'est-ce qu'ils font? Le texte nous dit plus tard que ils crièrent encore plus fort et même ils se mutilaient. Ils sautaient jusqu'à l'après-midi avec excitation, mais ils ne reçurent aucune réponse, ni aucun mot, ni aucun signe. Du coup, cet autel que les païens, les prophètes de Baal avaient construit, il n'y avait aucune réaction. Eux, ils pensaient qu'ils louaient un vrai Dieu, mais en fait, il n'y avait pas de réaction. Ensuite, Élie s'avance. Il reconstruit l'autel qui a été renversé. Élie répare l'autel du Seigneur qui avait été renversé avec 12 pierres. Puis en fait, il crée un fossé tout autour de cet autel. Il met du bois, il met le taureau en sacrifice. Et puis après, il demande à des serviteurs qui sont là, versez de l'eau sur cet autel. Imprégnez vraiment cet autel d'eau. Et puis ils font ça 3 fois. Ils imprègnent jusqu'à ce que l'eau, le texte nous dit jusqu'à ce que l'eau entre dans le fossé et puis il y a de l'eau partout. Et puis je ne sais pas si vous savez, si vous avez déjà fait du feu déjà cette année, si vous êtes en train de préparer votre barbecue. En règle générale, si tu as du bois mouillé, est égal à ton feu, tu ne vas pas arriver à l'allumer. Feu impossible, bois mouillé. Puis si vous voulez voir un peu comment allumer un feu impossible et puis de voir comment Dieu il peut rendre l'impossible possible, bah peut-être que vous pouvez, en tout cas en tant qu'homme, aller aux soirées feu. Il y en aura une en avril. C'est là où vous allez apprendre à rendre avec Dieu l'impossible possible. Puis dans ce texte ici, on voit que Dieu rend l'impossible possible. Ce feu, ce bois qui est mouillé, en fait, Dieu agit. Dans le verset 36, Élie prie. « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. » L'Éternel fit alors descendre du feu qui brûla le sacrifice, le bois, les pierres et la poussière, et il fit évaporer l'eau du fossé. Et lorsque, au verset 39, lorsque les Israélites virent cela, ils s'inclinèrent tous jusqu'à terre, puis ils dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Ne pas prier comme des païens, c'est ça. Et notre Père nous rappelle cette prière que reconnais ce Dieu que tu pries. Reconnais que c'est le Dieu qui rend les choses impossibles possibles. Que c'est lui qui ramène les cœurs vers lui. C'est ça, le Père auquel tu pries. Ça, c'est la première vérité, l'identité de Dieu. Regardons une deuxième vérité, une vérité sur nous. Qui suis-je, en fait, devant Dieu? Dans la prière du Notre Père, on fait 3 acclamations, 3 intercessions pour nous. On demande pour le pain quotidien, on demande le pardon, on demande la délivrance. Et comme on a déjà vu, Jésus, il incorpore plus de choses dans cette prière que simplement un texte à réciter. En fait, il dissimule carrément un parcours que les Israélites découvrent en Égypte. Alors qu'ils sont en Égypte, en esclavage, bah Dieu leur promet « Je vais vous libérer, je vais vous sortir, je vais vous révéler mon identité et je vais vous montrer que vous êtes mon peuple. » Et ici, Jésus, à nouveau, nous rappelle ce lien. Où c'est qu'on le trouve? C'est dans les instructions qui viennent juste avant la prière du Notre Père. Dans Matthieu, chapitre 6, verset 6. « Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, à l'écart, ferme la porte pour prier ton Père qui est là, dans cet endroit secret, et ton Père qui voit ce que tu fais dans le secret te récompensera. » Et peut-être, en première allusion, ça ne fait pas vraiment tilt avec le lien dans Exode, mais regardons ensemble. Exode, chapitre 12, versets 15 et suivants. Dans ce passage, et si vous êtes dans le plan de lecture du mois de mars, vous allez bientôt y arriver. Exode 12, en fait, nous parle d'abord de l'institution de la Pâque. Là, Dieu donne des instructions sur le pain sans levain qu'il faut prendre en Égypte. Et puis ensuite, Dieu donne à Moïse toute une instruction sur comment éviter le plus grand fléau, qui est celui de la mort des fils premiers-nés. On peut lire ensemble dans le verset 21. Moïse convoqua tous les anciens d'Israël et leur dit « Allez vous procurer des agneaux ou des chevreaux pour vos familles et égorgez-les pour la fête de la Pâque. Prenez un bouquin de branches d'hysope, trempez-le dans le récipient contenant le sang de la victime et mettez-en sur les deux montants et sur la poutre supérieure de la porte d'entrée. Dès lors et jusqu'au matin, que personne ne sorte de sa maison. L'Éternel va passer pour punir les Égyptiens, mais lorsqu'il verra le sang sur les montants et sur la poutre, il passera sans permettre au fléau destructeur de pénétrer dans vos maisons. Vous et vos descendants, vous observerez toujours ces prescriptions. » Puis dans le verset 26, « Alors les Israélites s'inclinèrent jusqu'à terre pour adorer l'Éternel. » Dieu ordonne un commandement spécial ici. Préparez-vous à la Pâque avec du pain. Prenez le sang d'un agneau et mettez-le sur le montant et un linteau, signe de l'alliance avec Dieu. Puis, entrez chez vous, fermez la porte, et le Dieu qui est là va passer, il va passer son jugement sur les Égyptiens. Il saura reconnaître le signe qu'il y a sur ta porte et il te récompensera et te préservera du fléau destructeur. Ça nous dit quelque chose, ça, non? Ces paroles, elles résonnent. Parce qu'en fait, « Donne-nous notre pain de ce jour » rappelle la manne en Égypte, ramène la manne dans le désert. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. La tentation, c'est de ne pas croire en la puissance de Dieu. Délivre-nous du mal, délivre-nous de ce fléau destructeur qui s'empare sur l'Égypte. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est un scandale pour les Israélites aussi. Parce que dans le désert, Dieu leur rappelle, accueillez l'étranger parce que vous étiez étranger en Égypte. Dans la promesse de Pâques, qui est amenée dans la prière, dans cette prière du Notre Père. Quand tu l'as prié, en fait, tu déclares plus ou moins ceci. Je suis enfant de Dieu et je crois que le sang de l'agneau sera le signe visible, celui qui est horizontal et vertical, qui me préservera du fléau destructeur, le mal qui n'a aucun droit sur moi, mais qui suit les commandements de Dieu. En fait, quand tu pries Notre Père, tu reconnais la puissance de Dieu dans ta vie. Quand tu pries le Notre Père, tu t'identifies au peuple de Dieu qu'il a choisi et qui va préserver d'un fléau. Puis c'est ça, le Notre Père. C'est une sorte de confession de foi. Et puis c'est une confession de foi que les chrétiens récitent 3 fois par jour depuis bientôt 2000 ans. Mais il y a encore une troisième vérité. Une troisième vérité, c'est non seulement une dimension relationnelle et intime avec Dieu, une sorte d'identité que tu peux reconnaître qui est le Dieu auquel tu te laisses et que tu pries, mais il y a aussi une vérité sur mon prochain. Qui est-ce que je dois pardonner ? Ah non, ah pas ça, pas le pardon. Lorsque nous prions « pardonne-nous » comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, tout à coup on reconnaît que, en fait, on a besoin de pardon, ok, mais on doit aussi accorder le pardon. On reconnaît que on est victime, ouais, on est victime, ok, mais on est aussi ceux qui font du tort aux autres. Pourquoi d'autres demanderont-nous le pardon à Dieu ? C'est pour l'accorder aussi. Et on était dans l'Ancien Testament un petit peu, mais allons maintenant dans le Nouveau Testament, dans un passage dans 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 4, où Paul nous dit « Bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Père riche en bonté, le Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion. Il nous console dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur apportant la consolation que nous avons nous-mêmes reçue de lui. » Et on l'a entendu il y a quelques semaines, Maud nous a enseigné à travers Jonas que c'est un Dieu riche en bonté. Et puis que c'était scandaleux pour Jonas. Un Dieu riche en bonté. Et avec les béatitudes, Matthieu nous rappelle aussi que heureux sont les affligés, car ils seront consolés. Et dans ce passage, dans 2 Corinthiens 1, Paul nous rappelle que Dieu est le Père riche en bonté, qu'il console toutes nos détresses. Il nous accorde un pardon. Si on est affligé, il nous console. Il ne nous console pas justement pour nous, il nous console pour que nous apportons la consolation à ceux qui passent dans toutes sortes de détresses. Du coup, le Notre Père englobe tout un parcours à travers la Bible. Et nous réalisons quelque chose sur l'identité de Dieu. Qui est ce Notre Père que nous prions ? C'est un Dieu puissant, un Dieu bon, un Dieu miséricordieux. Mais qui sommes-nous, en fait ? Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes invités à la table, à travers l'agneau, à travers le sang de celui qui a imbibé le bois. C'est grâce à lui que Dieu nous reconnaît et puis nous amène une consolation, nous épargne, en fait, d'un fléau destructeur. Puis j'aimerais amener cette prédication vers une fin. Puis j'aimerais juste un peu ajouter un petit truc sur mon lumbago, parce que là, depuis lundi, je suis coincé, quoi. Je fais quoi maintenant ? En fait, ce lumbago, je commençais à me plaindre. J'étais couché par terre, je regardais le plafond. Puis finalement, j'ai décidé, ok, je vais quand même à l'école, je vais quand même à l'université, même si, franchement, je pense à rien d'autre que ce truc qui m'embête. Et j'ai un ami chrétien en classe à qui je partage « Ah, mais tu sais pas comment j'ai mal !» Et puis, on se retrouve dans l'aula de l'université, dans l'hall d'entrée, l'endroit public par excellence. Genre, tout le monde passe à travers ce hall d'entrée de l'université. Et c'est là que mon ami me demande « Est-ce que je peux prier pour toi ? Est-ce que je peux prier pour ton blocage ?» Et puis, je me suis retrouvé dans ce hall d'entrée, avec mon ami qui pose sa main sur moi, qui prie, qui demande à Dieu de libérer ce blocage. Et puis en fait, je n'ai pas ressenti uniquement un déblocage d'un lumbago, parce qu'aujourd'hui, je vais bien. Mais en fait, j'ai reçu une profonde libération dans mon cœur. une profonde libération de ma relation intime avec Dieu. Parce que ce blocage, il m'a tellement pris la tête que j'ai oublié en fait que Dieu, il était capable de l'impossible. Et puis ce matin, je crois vraiment que notre grimace peut se transformer en réconfort, que notre peine peut se transformer en consolation, que notre affliction peut devenir une paix profonde, une intimité avec Dieu. Puis j'ai utilisé l'image du lumbago ce matin comme illustration. Mais peut-être que vous savez qu'un lumbago peut aussi être, en français, appelé un tour de rein. Un tour de rein. Ou en allemand, un Hexenschuss, un coup de sorcière. Les reins dans la Bible, c'était l'endroit où on pensait qu'il y avait les émotions. Souvent, les psaumes parlent des reins comme l'endroit où les émotions sont stockées. Et coup de sorcière, tout à coup, nous fait penser à des effets surnaturels, un blocage surnaturel. Je ne sais pas où tu es dans ta vie, ton intimité avec Dieu ce matin. Mais peut-être que c'est tes émotions qui sont spécialement affectées. Quand tu passes un temps avec Dieu, que tu récites ou tu pries même le Notre Père, et puis que tu médites sur Dieu, en fait, émotionnellement, tu es bloqué. Peut-être que c'est ton passé. Toi-même, tu te connais, tu sais ce qui te bloque. Et oui, je crois aussi qu'il y a des effets surnaturels, peut-être, qui peuvent nous bloquer. Mais aussi des effets physiques. Juste ton corps qui est bloqué, comme un lumbago, m'a totalement bloqué de l'aspect intime et surnaturel avec Dieu. Et puis ce matin, j'ai envie de faire deux appels. J'ai envie qu'on prie ensemble. J'ai envie de faire deux appels spécifiques. Et puis ensuite, on repriera le Notre Père. Ça fera déjà deux fois aujourd'hui. On va le reprier ensemble. Donc je vous invite à fermer les yeux, de prendre un temps maintenant où on vient devant Dieu en fait. Parce que ici, en tant qu'Église, on est comme dans une antichambre avec le sang de l'agneau Jésus-Christ qui nous recouvre. Et puis peut-être que ce matin, tu es venu au culte avec une sorte de blocage, peut-être dans la prière, peut-être dans la louange, peut-être dans ta relation avec Dieu. Peut-être que même la question, en fait, c'est à qui que j'adresse mes prières, elle t'interpelle ce matin. Mais j'ai envie que tu saches que Dieu, il t'invite comme Élie sur la montagne. Tu peux redresser l'autel de l'Éternel. Tu peux réparer les fondations de ta foi. Tu peux laisser l'Éternel, le seul Dieu, allumer un feu puissant dans ta vie. Et puis même, je crois vraiment que si ce feu te semble impossible, Dieu peut le rendre possible. Il peut amener ton cœur vers lui, dans une fidélité comme dans le passé. Ou peut-être, mon second appel s'adresse en fait à nous tous un peu. Une invitation à une intimité avec Dieu. Comme le peuple en Égypte qui se préparait pour la Pâque, nous aussi nous sommes à quelques jours de la Pâque. Puis je nous encourage à vivre notre vie, notre préparation dans la prière. Et puis que notre chambre, notre foyer puisse devenir un endroit où on invite le Saint-Esprit. Et puis qu'on puisse se préparer pour la Pâque. Puis qu'on puisse prier ce Notre Père. Peut-être pour certains ce matin, c'est une prière de retour vers le cœur de Dieu. Un Notre Père qui est là avec toi, qui te tient, qui te encourage. Ou peut-être que c'est une invitation à l'intimité où tu te prépares pour Pâques, dans ta chambre, dans ton lieu secret. Prie celui qui sait ce que tu as besoin ce matin. veux juste prier et ensuite je vous encouragerai à prier notre Père ensemble. Père, nous déclarons que ton nom est reconnu saint. Toi, le vrai Dieu, toi qui s'est manifesté dans le temps d'Élie comme un feu qui retourne les cœurs vers toi, pour que tous reconnaissent que tu es le vrai Dieu, Seigneur. Seigneur, on veut reconnaître que comme en Égypte, tu discernes ceux qui sont ton peuple, tu discernes ceux qui ont le cœur tourné vers toi. Et ce matin, je te remercie parce qu'en tant que peuple, on peut être sous ta croix, sous l'endroit où le sang de l'agneau, le sang de Jésus a coulé pour nous. Et puis on est réconcilié avec toi. Donne-nous le pain de ce jour. Donne-nous la manne dont nous avons besoin. Accorde-nous le pardon. Accorde-nous la consolation pour que nous aussi, nous puissions la donner aux autres. Amen. Alors que nous allons afficher le Notre Père, j'aimerais juste vous rappeler que à la fin des cultes, il y a des gens ici devant pour prier. Et puis je vous encourage, si Dieu vous travaille spécialement ce matin, avancez-vous, venez vers quelqu'un, parlez-en à quelqu'un. Partez pas d'ici avec un cœur lourd. Parce que si Dieu peut agir dans une aula d'une université, il peut agir ici à l'MT. Je vous encourage de prier ensemble le Notre Père. Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.